Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Alors cette semaine, on est venu à la rencontre de différents acteurs impliqués dans la problématique du loup, directement sur place dans la vallée des Huiles en Belledonne. Donc on est venu à la rencontre tout simplement pour écouter ce qu'ils avaient à nous dire, parce que on est tous arrivés sans doute avec nos préjugés, nos idées de la problématique. Alors on a rencontré divers acteurs, le but était évidemment de rencontrer des acteurs de part et d'autre, on pourrait dire du problème, pour résumer grossièrement les pro-loups et les anti-loups. Plus concrètement, donc on a rencontré des éleveurs qui avaient été attaqués à de multiples reprises pendant la période estive. On a également rencontré le même jour un naturaliste qui avait suivi le loup pendant 7 ans. Et puis la MSA des Alpes. Et également, on devait rencontrer d'autres éleveurs qu'on n'a pas pu avoir puisque leurs conditions de travail ne leur permettent pas d'avoir un emploi du temps tout le temps ultra flexible. Mais on a également rencontré Marion qui a réalisé un mémoire sur le loup en Belledonne et qui nous a parlé un peu de ses travaux et qui a pu élargir un peu ce champ de rencontre à travers ses travaux puisqu'elle a bossé pendant 6 mois sur ce problème. Et à travers tout ça, on a pu vraiment changer ce prisme de pensée personnelle qu'on pouvait tous avoir. S'il y a une chose de sûre, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être certain d'être pro-loup ou anti-loup. Il y a tellement de paramètres dans ce problème. Il y a bien une chose qu'on sait, c'est que nous, on ne pourra pas régler le problème, ça c'est certain. Je sais pas si on avait l'ambition de le faire en arrivant, mais maintenant c'est certain qu'on sait que ce serait complètement idiot de dire que on peut réussir à apporter des solutions concrètes. On pourra pas, c'est quelque chose qui doit avancer avec tout le monde, les éleveurs, les consommateurs, etc.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau volet de l'apérophonie, l'émission des bénévoles de Radio Campus Grenoble sur le 90.8 FM. Ce soir, c'est Émilie qui vous parle. Mais avant toute chose, une éclaircie. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Paul, étudiant en M2 en communication et culture scientifique et technique à l'Université Grenoble-Alpes. Paul introduit à merveille cette émission. Elle n'est pas là pour être pour ou contre le loup. Elle est là pour donner une vision globale de la controverse qui peut toucher les massifs où l'animal est présent. Pour ma part, je m'appelle Émilie. Il est fortement possible que vous ayez déjà entendu ma voix ici. Dans la vraie vie, je suis créatrice sonore, très attachée aux radios associatives comme moyen de diffusion. C'est une manière différente de faire de la radio, peu stéréotypée par les grandes écoles de journalisme, et quand je passe derrière le micro de Radio Campus Grenoble, je me paye un peu le luxe intégral d'un petit extrait sonore juste après un jingle sans mise en contexte, pour vous décaler mais aussi et surtout pour aiguiser votre sens de l'écoute. Parce que ce soir, c'est bien d'écoute dont il s'agira, et du loup en Belledonne, mais pas que. Ce projet d'émission ne date pas de ce week-end, et il est malgré tout dans le thème de l'actualité. En effet, un loup gris aurait été aperçu il y a 5 jours dans une parcelle de vigne de Saint-Thomas de Cognac, dans les Charentes-Maritimes. Même si les témoins sont pour l'instant oculaires et que l'ADN n'a pas encore pu être formellement retrouvé, c'est tout de même la stupéfaction qui règne. Comment un loup peut-il se retrouver aussi loin de son habitat naturel, les régions plutôt montagneuses? Le loup a été éradiqué en France dans les années 30 et a fait sa réapparition au début des années 90 par l'Italie en revenant s'installer dans le parc du Mercantour. Il est une espèce protégée par la Convention de Berne, datant de 1979, transcrite dans le droit français en 1989. En 2017, la MSA, la Sécurité sociale agricole, entend la colère des éleveurs et observe la dégradation de leur santé. Il est même dit qu'une attaque de loup est un traumatisme semblable à une attaque terroriste pour ceux qui la subissent, car elle est toujours imprévue et pour autant les éleveurs des régions où sont les loups savent très bien qu'une attaque peut arriver à tout moment. La MSA s'empare de la problématique en suivant plus spécifiquement les personnes travaillant dans les zones réputées pour être des fleurons d'attaque du Canis lupus.
Alors, je suis Marie-Paul Le Gouen, responsable de l'action sanitaire et sociale à la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord.
Comment la MSA s'est emparée de cette problématique du loup et par
Alors,
quel biais ?
Nous, nous travaillons sur la question de la santé. C'est-à-dire, c'est les conséquences de la prédation. Quelles conséquences a la prédation sur la santé des éleveurs ? C'est ça qui a été notre accroche et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec les éleveurs de Maurienne, compte tenu de l'état de souffrance psychique dans lequel ils étaient.
Quels ont été les moyens mis en place pour répondre à la prédation du loup sur le territoire ?
Alors, les moyens de la MSA, c'est le moyen de travailler avec ses élus. On a travaillé avec les élus de la MSA et aussi... C'est du temps homme, les moyens. Dégager du temps de travailleur social et du mien, responsable d'action sociale, pour aller à la rencontre des éleveurs. Et en fait, la démarche, et ça aussi c'est des moyens, c'est de co-construire avec les éleveurs les outils ou les accompagnements dont ils ont besoin. C'est vraiment le souci de répondre au plus près aux besoins des éleveurs. C'est eux qui nous ont dit de quoi ils avaient besoin. Donc les moyens qui ont été donnés, c'est des moyens humains et puis aussi des moyens financiers, puisque nous avons donc comme outil le film qui consiste à alerter le grand public sur la question des conséquences des attaques de loups sur les éleveurs qui en sont victimes. Et donc des moyens financiers, parce qu'un film, ça coûte de l'argent. Des moyens aussi en termes des outils de communication, donc cette plaquette que nous avons éditée, construite et écrite avec les paroles des éleveurs pour expliquer que le stress post-traumatique, c'est quelque chose de normal, qu'il ne faut pas en avoir peur, mais qu'il faut vraiment le reconnaître. Et cette petite plaquette permet d'avoir un guide pour se dire « Tiens, je suis dans cette situation ». C'est sans doute normal, mais j'ai besoin d'être aidée et savoir où demander de l'aide. C'est pour ça que dans cette plaquette ou verso, il y a les contacts des personnes qui peuvent apporter cet accompagnement.
Depuis combien de temps et sur combien de mois ce projet
a-t-il
couru ?
Alors ça s'est fait pendant plus d'un an, presque. Enfin, ça continue parce qu'on est toujours auprès d'eux. Donc on travaille en groupe d'échange. Donc les éleveurs ont été d'accord pour que aller chercher une quinzaine d'éleveurs, hommes et femmes, pour nous aider à mieux comprendre leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec eux. Et c'est ce travail de groupe, on espère pouvoir le continuer maintenant avec d'autres éleveurs.
Pourquoi êtes-vous venu participer à ce projet de workshop
Alors, nous,
en septembre
C'est vrai que chaque fois qu'on va avoir l'occasion de faire connaître notre travail et notre démarche, pour nous c'est important. Et je dois dire que quand on a été sollicité par l'Université de Grenoble, on était enchantés parce que c'est l'occasion d'aller à la rencontre de jeunes étudiants, donc c'est l'avenir. Et de pouvoir partager nos préoccupations avec des jeunes, c'était une occasion à ne pas manquer. Et puis, du coup, comme ces jeunes étudiants vont réfléchir à la médiatisation, la médiation, ça nous intéresse particulièrement d'avoir des idées nouvelles et de s'enrichir des idées des autres. C'est comme ça qu'on avance.
Vous venez d'entendre Marie-Paul Le Gouen, responsable de l'action sanitaire et sociale à la MSA Alpes du Nord. En septembre dernier, je me suis munie de mon micro pour réaliser une interview et aller à la rencontre des étudiants en Master 2 Communication et Culture Scientifique et Technique de l'UGIA, dirigée par Michael Chambru. L'objectif de cette formation, c'est d'encapaciter des étudiants dans les métiers de la médiation scientifique et de la culture scientifique, mais aussi dans les métiers de la communication spécialisée dans le domaine scientifique. la double compétence visant à comprendre une information scientifique très pointue et très dense, en ayant la volonté de vulgariser cette information au grand public, paraît alors très importante. Cette émission est construite autour des témoignages que j'ai glanés lors de mes 2 jours de présence sur le territoire et de mes réflexions. C'est en quelque sorte un mi-reportage, mi-documentaire autour de la controverse du loup. C'est une controverse, c'est tout simplement une discussion sur une question ou une opinion. Dans le cas du loup, et comme dans toutes les controverses, il n'y a pas de pour ou de contre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est là qu'est tout l'intérêt de cet argumentaire. Comment, dans un monde où on est beaucoup à défendre l'agro-pastoralisme, plutôt que les grandes industries où les animaux naissent et vivent entre 4 murs, vivre avec un prédateur qu'est le loup, contre lequel les éleveurs ont des difficultés à se défendre? J'ai interviewé les étudiants à mi-parcours de leur semaine de travail et d'échange. Qu'ont-ils exactement compris à ce moment-là de la controverse du loup et de ses multiples acteurs sur le territoire? Quentin et Paul nous parlent du loup et des problèmes qu'il soulève sur le territoire des différents acteurs. Et comment il est important, pourquoi il est important de travailler sur cette controverse.
On est face à un animal qui, manifestement, reste assez insaisissable. On sait qu'il est là, on en a des traces, on l'a observé, mais on n'arrive pas forcément à le voir. C'est un animal qui est extrêmement discret, extrêmement intelligent. Face à l'apparition de cet animal qui s'est mis à manger des brebis, à tuer des brebis, notamment. Les éleveurs ont commencé à se défendre, à avoir des moyens de protection. Il y a eu toute une bataille juridique avec pour obtenir des moyens de protection. Il y a des contraintes. Par exemple, les éleveurs sont maintenant obligés, lorsqu'ils se font attaquer, d'avoir des patous, donc des chiens de garde. Malgré ces moyens de protection, il semblerait que le nombre d'attaques de loups se maintiennent, restent à des mêmes chiffres, augmentent. Alors ça, c'est la bataille des chiffres. Après, suivant à qui vous parlez dans cette controverse, vous n'avez pas forcément les mêmes informations. Et cet animal insaisissable, en fait, ça le rend un peu mythique dans sa forêt. On sait qu'il est là, on ne sait pas où, on ne sait pas quand il va attaquer, possiblement à n'importe quel moment. Donc, du point de vue d'un éleveur, effectivement, ça reste une question assez invivable et il y a une espèce de psychose qui s'amorce. Tous les problèmes de santé que ça peut causer avec, pour balayer rapidement, le manque de sommeil, le manque de vie sociale aussi, parce qu'il passe beaucoup de temps en alpage à essayer de sauver les bêtes. Le manque de reconnaissance de la part des randonneurs, par exemple, des institutions, selon eux. Donc ça, c'est du point de vue des éleveurs. Et puis, on a de l'autre, sans parler de pro-loup, anti-loup, parce que on l'a dit, c'est beaucoup trop simple de parler en ces termes-là. On a aussi cette question de « c'est une espèce sauvage qui est merveilleuse, enfin assez fascinante de par son côté insaisissable et extrêmement furtif. Et cet émerveillement pour une espèce sauvage qui est un grand prédateur, ça fascine aussi, et ça fascine de tous bords, j'ai envie de dire. Et pour être plus spécifique à Belledonne, c'est pas le premier massif qui a été touché dans les montagnes, dans les Alpes françaises. Le premier massif par lequel le loup est arrivé, c'est le Mercantour, dans le sud des Alpes. Et il est arrivé dans les années 96-97. Les premières attaques se sont fait ressentir dans ces années-là. Il me semble qu'il est arrivé en 92 ou 93. Il y a encore une fois une bataille des chiffres dans le Mercantour. Et ensuite, il est arrivé à Belledonne. Les premières attaques en Belledonne, ça a été vers 96-97, c'est ça. Et on était... On s'est retrouvé face à des attaques croissantes. Et donc, il y a par exemple cette idée qu'il y aurait, une dizaine de meutes en Belledonne.
Au-delà de ce problème, c'est aussi le fait que le loup soit si insaisissable, c'est également un problème de pression permanente sur les éleveurs. C'est ce qui ressort globalement, c'est que à partir du moment où ils ont eu une attaque, que le loup soit là ou pas, ils ne le savent pas, mais ils sont constamment sous pression. Et c'est un problème qui leur impose d'être en permanence sur leur garde, en permanence stressés. On sent que c'est vraiment la pression qui est dure à gérer, ce qui leur impose aujourd'hui de réduire encore plus leur saison en alpage. On comprend réellement qu'aujourd'hui, il y a un réel problème pour le pastoralisme. C'est impossible de laisser les choses aller telles qu'elles sont, puisque au bout d'un moment, il faudra que une partie ou une autre cède devant le problème, puisque chacun campe sur ses positions, mais pour l'instant, ça marche pas trop.
Pour vous mettre dans l'ambiance de cette semaine de travail et pour continuer dans le témoignage, chers auditeurs et auditrices, je vous propose un extrait des discussions que les étudiants et étudiantes ont pu avoir avec les éleveurs et la MSA. Il vous permettra de comprendre une partie du problème et des incompréhensions par le prisme de ceux qui perdent des bêtes, celles qu'ils élèvent, très très régulièrement.
On est passé, soi-disant, en dessus des 500 loups, soi-disant. Nous, on est persuadés que l'ONCFS manipule les comptages. Voilà, donc à partir de 500, on est passé de 50 loups prélevés par an à 100. Donc on a doublé, d'accord ? Et on a toujours autant d'attaques, autant de victimes. Voilà. Et des victimes qui sont centrées chez certains éleveurs, des endroits où il y a des meutes. Ben, vous avez visité un élevage, là, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 150 brebis, un tiers au tapis. Ben, c'est monstrueux, on vous enlève un tiers de vos revenus, on vous enlève un tiers de votre revenu. Je ne sais pas si vous allez apprécier les masques. Oui. Et puis en plus, ce qui est... Voilà, comme je le dis, moi dans le film, moi, je ne suis pas foncièrement contre le loup, c'est effectivement un animal qui est magnifique. Mais il faut être terrain. Je ne sais pas si vous vous destinez à des professions de terrain, mais il faut être terrain, il faut réagir terrain. Quand on voit une telle souffrance, quand on voit une telle incompréhension, on ne peut rien faire. On met les parcs de protection, on met des patous. Moi j'ai 150 brebis, j'ai 5 chiens. Avec toutes les nuisances qui vont avec. Tous les gens qui ont peur, les chiens qui sortent, les chiens qui aboient la nuit à côté des maisons. Enfin, c'est une catastrophe. Et ça, ben, tout doucement, ça rentre dans le commun, dans le normal. Voilà. Et c'est ça qui est très très compliqué à dénoncer pour nous.
Et les chiens, c'est 4 mois en alpage et le reste du temps en bas dans les villages avec les éleveurs. Hein. Ouais. Donc vous voyez un peu, quand on a 6 chiens et qu'ils doivent vivre avec le troupeau, c'est pas une... Ouais.
Moi j'ai eu un rappel à l'ordre de la gendarmerie là, la semaine passée, parce que j'avais un chien qui faisait bien son travail à côté d'une maison. Il faisait bien son boulot. Période de chasse, là, ça commence, les sangliers, chevreuils se promènent, forcément le chien, lui, il fait pas la différence entre un loup et un... Lui, il va aller voir au filet, il va aboyer. Sa première réaction au chien, c'est d'aboyer. Ben, la gendarmerie vient me voir, ton chien, il fait du bruit. Ah, je fais quoi ? Eh oui, voilà, je fais quoi ? Solution, hein, on enlève les chiens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des chiens qui ne sont pas dressés. On ne dresse pas un chien de protection, c'est de l'instinct. Le chien, il va naître dans le troupeau et il va grandir avec les brebis. Donc il va prendre le troupeau en protection, c'est son troupeau, c'est ses brebis. Voilà. On enlève le chien pendant 2 mois, parce qu'on est dans un endroit où il y a trop de monde. Le père, il ne comprend plus. Quoi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Alors sur les vieux chiens, ça va marcher, les jeunes chiens, ben, on en loupe un sur deux. Quoi. Oui. Ça, là, nous, on n'a pas le choix, comme je vous le dis dans le film. On fait comment ? Entre les chiens qui sont, ben, un matin, ils sont mal lunés. Parce qu'ils ont mal dormi, parce qu'ils ont, ouais, ils se sont fait un petit peu agresser par les loups. Le matin, ben, ben, la première personne qui passe, ben, va se faire agresser. Enfin, c'est comme vous, hein, matin vous levez, un matin vous êtes un peu en colère. Bon, ça, on ne sait pas pourquoi. Ça reste malgré tout un animal, donc c'est hyper compliqué à gérer ça. Mais ça, visiblement, ben, les gens, ils ne veulent pas comprendre. Et moi, je dis, sciemment, ils ne veulent pas comprendre. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils nous donnent un petit peu de la poudre aux yeux comme ça, mais ils s'en foutent. Toute cette misère sociale. Moi, j'ai ma fille qui est à peu près vos âges, hein, qui a 22 ans, hein, hein, qui est bergère avec 500 brebis en alpage. Elle s'est fait attaquer il y a 2 jours. Ça, c'est la réalité. Bon, elle n'a pas eu beaucoup, elle est trop.
Malgré tout, c'est comme
ça. Et le soir, vous allez vous coucher avec. Hein. Vous vous couchez avec, puis vous vous relevez avec le matin. Hein. Bon, forcément. Hein. Parce que si c'est pas vous qui vous faites attaquer, c'est le copain à côté. Donc, vous savez que le loup, il est là. Hein.
Il est là. Et puis, voilà. Philippe aussi, qui a les 3 tués, mais il y a toutes les agressions qu'ont subies les autres, ah ben, et qui ne vont pas bien du tout, et qui sont même capables d'avorter dans certains cas.
Oui, avant de la choper et de la tuer, il en fait cavaler quelques-unes quand même.
Mm-hmm. Parce qu'une brebis, c'est stressé aussi. Ça les stresse, hein, les brebis, les attaques.
Et ça aussi, c'est très compliqué, hein, ce loup qui sait se faire invisible. Parce que pour le choper, il faut être aussi malin que lui. Hein. C'est un animal qu'on entend, qu'on ne voit pas forcément, on le voit de temps en temps, mais quand on le voit, c'est qu'il sait qu'il est hors de danger. Hein. Il ne va pas venir... Il va pas venir s'il sait qu'il a une chance de se faire choper, hein, le loup. C'est comme ça, c'est un animal extrêmement intelligent. Hein.
La DDT disait hier, tu vas me dire, ils sont tellement intelligents qu'un loup va aller à un endroit pour attirer les chiens. Hein, et pendant ce temps-là, les autres attaquent par derrière. Hein. Faut déjà y penser. Hein.
Ils attaquent en meute.
Voilà. Et il y aurait 10 meutes actuellement, 10 meutes de loups dans le département, à peu près.
Après, c'est facile. Si on veut élargir un peu le débat, je dirais... moi, des fois, je m'attrape un petit peu avec les éleveurs. Hein, ils en ont systématiquement contre les écologistes. Mmh. Enfin, je dirais, le premier écolo, c'est moi. Mmh. C'est nous, les écolos. Hein. C'est pas les écolos qui ont le cul sur une chaise vissée à Paris. Nous, on est sur le territoire. Moi, je fais du bien à la nature, je fais du bien aux animaux, je défriche, je nettoie, c'est les écolos, c'est nous. Hein. C'est les mecs qui sont, c'est les gens qui sont sur le terrain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, le loup, j'ai rien contre lui. Hein. Il a le droit de vivre, et moi, il ne me pose aucun problème. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que la cohabitation avec le pastoralisme, ce n'est pas possible. Et là, on peut étendre le débat à l'ours, c'est le même débat. Ce n'est pas possible.
Vous venez d'entendre un extrait de discussion qu'ont pu avoir les étudiants avec une partie des représentants du territoire en Belledonne. Initiés dans le cadre du projet Croscus, ils sont partis en workshop, ces étudiants. Cette semaine de travail en immersion a pour objectif de décrypter et analyser les réactions face au problème de la cohabitation avec le loup dans les territoires de montagne. J'ai rencontré Michael Chambru pour comprendre comment la semaine a été pensée.
Dans le cadre de leur formation, donc du coup c'est lié à des enseignements, des cours qui sont dans une maquette pédagogique d'un master, quoi, comme ça fonctionne à l'université. Et un peu le point de départ de tout ça, c'était d'essayer, qui est lié, on va dire, à des activités de recherche aussi, donc il y a un lien clair entre enseignement et recherche, et qui était un peu d'essayer de connecter des enseignements à une réalité, ou en tout cas à une forme de réalité du terrain, et notamment pourquoi ? Parce qu'on est sur des cours qui concernent les controverses socio-scientifiques, dans toute leur pluralité, et très souvent, quand on analyse les controverses, on le fait dans une salle de cours, dans une salle de TD, et le prisme qu'on prend, qui même un biais qu'on prend, c'est les représentations médiatiques. Et on passe à travers l'analyse des médias. Et en oubliant très souvent, on le fait parce qu'on ne peut pas forcément le faire différemment, mais en oubliant très souvent que les journalistes, en l'occurrence, et pour tout un tas de raisons, ça prendrait très longtemps à expliquer, mais les journalistes sont aussi des acteurs de cette controverse et ils participent à leur définition, à leur problématisation. Et du coup, se baser uniquement sur ça, si on le traduit ensuite, et c'est le cas des étudiants, là, on a des étudiants en médiation scientifique, dans des pratiques professionnelles qui visent à faire de la médiation, notamment sur des territoires, bah, du coup, on peut se retrouver assez déconnecté des réalités même de ces territoires et des expériences que les individus, dans toute leur pluralité, les acteurs, les publics, on les appelle comme on veut, vivent et éprouvent. Voilà, donc il y avait l'idée de se dire, bon, là en l'occurrence, par exemple, on était sur la controverse du loup. Donc clairement, la controverse du loup, si on regarde, il faut une sorte d'injonction. On est soit pour, soit contre. On doit être pour ou contre le loup. On doit être pour ou contre le pastoralisme, etc. Des positions très, très clivées. Et l'idée, c'est, et qui nourrit ce que je disais tout à l'heure d'activité de recherche, qui est de se dire, mais en fait, si on va sur un territoire, dans la matérialité de ce territoire, on se rend compte que les positionnements des uns et des autres sont beaucoup plus complexes que ce pour ou ce contre. Et si on écoute les gens, si on est dans une perspective d'être à l'écoute, des publics, de ce qu'ils éprouvent, de comment ils vivent le problème, ça transforme totalement notre façon d'envisager la controverse. En tout cas, c'est un peu l'hypothèse de travail qui est derrière le fait d'amener les étudiants ici. Sans forcément dire que le but est qu'ils changent leur positionnement dans la controverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un avis, ils peuvent être pour ce fameux pour ou contre, ils peuvent être dans un camp, tout ça. Mais l'idée, c'est voilà, qu'ils puissent se dire, en fait, qu'est-ce que fait le territoire et qu'est-ce que fait l'expérience à mon positionnement et surtout comment ensuite, d'un point de vue professionnel, je peux mettre à distance mon positionnement par rapport à des pratiques de médiation. Voilà, c'est un peu ça l'idée.
Vous l'aurez compris en écoutant Michael Chambru, le responsable du master dont les étudiants qui sont partis en workshop sont issus. L'enjeu est double. En me rendant en Belledonne, je voulais arriver à comprendre la problématique que pose le loup dans nos territoires de montagne tout en créant une émission aux allures de poupée gigogne permettant de me questionner sur la collecte de la parole, base d'une compréhension d'un problème précis. Et c'est surtout la première base de la médiation scientifique qui est là pour moi. Comment arriver en tant qu'étudiant ou journaliste sur un territoire qu'on ne connaît pas, écouter des personnes touchées directement par un problème particulier? C'est la base de cette médiation dont nous sommes responsables, dans les médias comme en science. D'ailleurs, le problème est encore beaucoup plus compliqué. Quelle est l'exacte définition de la médiation? Est-ce une simplification d'un problème? Est-ce qu'au contraire, on peut aborder des notions très difficiles au risque de perdre du public, et même vous, chers auditeurs? Et puis, il y a la froide méthode scientifique. Comme nous l'expliquent Guillaume et Myriam, cela peut être compliqué de ne pas tomber dans l'émotion. Et pourtant, cela doit et peut être nécessaire pour ce travail.
Alors, sur la première rencontre, il y a eu 2-3 personnes qui ont versé quand même une petite larme. Parce qu'on était, on va dire, on avait lu des articles, mais on n'était pas préparé à vraiment avoir une personne qui vraiment parle avec sa voix et qu'on sent l'émotion dans sa voix. Au fur et à mesure, on commence à comprendre le problème. Je pense qu'en fait, à avoir beaucoup d'informations et avoir l'avis de tous les acteurs, on a tendance du coup à un peu se positionner plus en hauteur, donc à mieux absorber du coup l'émotion. C'est pas forcément une bonne chose, c'est une bonne chose pour la méthode scientifique. Après, pour vraiment comprendre et ressentir les choses, on est peut-être en train de s'éloigner un peu trop. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut pas qu'on oublie qu'il faut garder ça. Voilà. Mais naturellement, on a quand même tendance à bien ressentir l'émotion.
Alors c'est une question qu'on se pose actuellement, et surtout parce qu'on s'est posé la question de comment être neutre, et est-ce que la neutralité est forcément nécessaire au vu de ce qu'on fait. Et dans notre discussion collective, on s'est rendu compte que la neutralité, c'était pas forcément un bon postulat, même quand on veut avoir une démarche scientifique, parce que ça implique de partir d'un constat et de l'accepter tel qu'il est, mais sans le remettre en cause, et surtout sans remettre en question les causes de la situation qu'on est en train d'étudier. Donc, la neutralité ne permet pas de remettre en question des choses, et notamment lorsqu'on fait face à des personnes qui ont des témoignages à donner, et leurs témoignages sont essentiellement des témoignages pleins d'émotions, de souffrances dans le cas des éleveurs. Et quand on étudie des personnes, en sociologie ou en communication, on ne peut pas faire abstraction des émotions qui sont communiquées, qui sont véhiculées, qui sont exprimées. Surtout quand on a ces émotions qui sont exprimées en face de nous. Il faut se mettre en retrait par rapport à nos propres émotions à nous, mais être attentif aux émotions des autres, parce qu'elles communiquent beaucoup plus même que ce que la parole, ce que les gens peuvent dire en fait. Et on doit prendre en compte les émotions dans notre analyse et dans notre étude, surtout parce qu'elles véhiculent des informations qui sont essentielles, si ce n'est capital lorsqu'on doit prendre en compte le cas des éleveurs dans la controverse du loup. Et surtout dans leur façon de réagir face aux autres acteurs. Ils ont une réaction qui est, pour la plupart du temps, d'exprimer leur colère. Et il faut comprendre les raisons de la colère pour pouvoir agir et analyser au mieux la situation plutôt que de faire abstraction de cette émotion. Surtout quand on étudie un territoire et est dans une problématique donnée avec des acteurs qui sont confrontés à une situation et à des expériences qui les met en branle. C'est le cas qu'on a eu avec tous nos témoignages, notamment ceux des éleveurs, qui nous expliquaient la plupart du temps, mais c'est pas une histoire de nombre, de chiffres, d'argent, c'est vraiment... Moi, on m'a dépossédé de quelque chose et on ne me comprend pas et on ne m'entend pas. J'ai l'impression qu'il faut que je hurle, crie pour qu'on m'entende et qu'on m'écoute. Donc cette émotion, quand les éleveurs parlent comme ça ou les bergers, elle communique, elle véhicule toute la frustration de ne pas avoir été entendue et de ne pas avoir été prise en considération. Donc quand on analyse leur discours comme ça, on capte un argument qui est « écoutez-nous ».
Une fois la parole collectée, il faut ensuite en faire une synthèse compréhensible par tous, sans pour autant, et c'est là mon souci, épurer trop l'information, sortir de la communication pour aller vers une vraie médiation. Comment les étudiants se sont-ils appropriés ce workshop ? Guillaume nous parle de ressenti et de son ressenti quand on travaille de collecte de la parole sur la problématique du loup.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on est ici pendant une semaine et on a des rendez-vous de prévus, donc grâce à notre gérant de master, Michael. Donc, soit on va voir les gens directement dans les pâturages, ou alors, pour certains acteurs, ils viennent nous voir. Et ça se commence par une petite présentation de l'acteur. Donc, il se présente, il raconte ce qu'il fait, il raconte ce qu'il a vécu, nous explique un peu son point de vue. Et après, on enchaîne sur des questions. Donc, les questions, généralement, sont assez diverses. On commence par déjà questionner sur son discours, sur son histoire, donc sur ce qu'il a raconté, pour vraiment connaître les détails. On essaye vraiment d'écouter la personne, donc de comprendre ce qu'il ressent. Et une fois que vraiment on a bien compris son histoire, vu qu'on rencontre plusieurs acteurs, on ne le confronte pas aux autres idées des acteurs, mais on va lui poser des questions pour mieux comprendre les idées des acteurs d'avant, en fait. C'est un peu complexe, mais en gros, c'est se dire, sur l'acteur d'avant, il avait cette vision, donc je vais poser à cet acteur qui a une autre vision la question pour expliciter en fait le raisonnement. C'est vraiment des couches, donc ça nous permet vraiment de, à chaque acteur, avancer dans notre idée et dans notre cheminement, en fait.
La compréhension de la controverse et cette mission de terrain ont été importantes pour les étudiants dans leur état d'esprit face à une problématique sociale, face à la collecte de la parole de ceux qui sont sur les territoires, et même déjà au bout de 3 jours, ils l'ont compris. Vous aussi, vous avez compris que la controverse du loup est très complexe. Ce workshop est une première base pour ces étudiants en médiation scientifique qui les a aidés à comprendre la multiplicité des acteurs sur un territoire varié et rude. Elle leur a aussi permis d'acquérir une position de collecteur de la parole.
Alors j'ai remarqué, surtout à des moments où je posais des questions avec un peu d'affect, que je le contrôlais plus et je m'en rendais plus compte maintenant à essayer de ne pas être trop agressive dans les questions. Et c'était pas forcément, je ne m'en rendais pas forcément compte au début. Alors on se retrouve face à des gens qui ont beaucoup de vécu par rapport à la controverse. Et donc je pense que c'est important d'abord de les écouter pour ensuite nous se rendre compte que, enfin, on peut être stressé, on peut être mal à l'aise, on peut être parfois un peu en colère sur certains sujets, mais faut savoir que eux c'est pareil. Et donc c'est important de faire attention d'abord à les écouter pour ensuite pouvoir nous se mettre à leur place et contrôler aussi entre guillemets notre manière de leur parler pour qu'il y ait un échange qui soit plus adouci et constructif.
Vous venez d'entendre Mathilde. Cette posture, qui est à mon sens très intéressante et qui est intimement liée aux missions de journalisme et de médiateur scientifique, elle vient de vous en parler. En effet, dans un monde où tout va toujours plus vite, où on nous demande d'être ultra performant, c'est compliqué de prendre le temps de passer du temps sur un territoire, justement, et d'arriver en tant que personne à faire un pas de côté et à se délier de nos croyances et de nos apprentissages afin d'être dans une position d'écoute pourtant nécessaire.
Alors, comment je le sens ? Je pense que c'est quelque chose de très important quand on travaille sur une controverse. C'est quand on travaille et qu'on veut être éventuellement amené à travailler derrière pour peut-être essayer de faire avancer les choses, on ne peut pas juste partir avec ses idées et se dire qu'on en sait suffisamment. Il faut aller... On est venu faire, je pense, la meilleure chose à faire dans ces cas-là. On est venu écouter, et simplement écouter. Quand on a rencontré ces gens, on ne leur a pas proposé telle ou telle solution, est-ce que comme ça, ça pourrait marcher. On est venu les écouter ce qu'ils avaient à nous dire. On a absorbé tout ça un peu comme des éponges, et on a brogé énormément.
Vous avez entendu la voix de Paul. L'écoute et les territoires, différentes visions de l'agriculture qui s'opposent, la santé des éleveurs, une espèce protégée par une convention européenne. Tout cela me laisse bien songeuse, et j'ai hâte de voir qu'en retirent les étudiants du master à l'UGA. En attendant, et pour finir sur une note de douceur, je vous laisse avec Métronomie et le titre Lately. Cette mission sera diffusée en podcast sur le site de la radio, qui vernit d'ailleurs ce soir sa première exposition retraçant les 26 premières années de son existence. Belle soirée et à bientôt sur Campus Grenoble 90.8. Et n'oubliez pas, que vous soyez journaliste, médiateur scientifique ou rien de tout ça, ouvrez grand les yeux et les oreilles. Et surtout, écoutez le territoire qui vous entoure.
I know she'd be the greatest if only she was open to see me. It's alright though, cause I got time. Time isn't my essence and time isn't a line. It's alright though, she'll give me a buzz. I'll call her my baby and she'll call me her cuz. Well, I think I'm in love cuz.
Lately, I'll call you when I do nothing. I'll call you when I do nothing. Oh, well, that is love. Yeah, that is love, and it's hard to do. It's a job for two.
Give me a call when you want picking up.
Okay.